Échange public, émission exceptionnelle. Philippe Bouvard, 50 ans de RTL.
Vincent Perrot.
C'est en public, dans le grand studio RTL, nous célébrons depuis hier les 50 ans de succès de Philippe Bouvard sur la première radio de France. Alors, je ne vous demande pas si vous étiez avec nous, sinon fournissez-moi un mot d'excuse valable de vos parents, mais vous savez donc, puisque vous étiez avec nous hier, qu'il avait été dans cette première émission. Beaucoup de questions, Philippe, de vos débuts à RTL, comment vous y êtes entré, vous nous l'avez expliqué, le célèbre RTL non-stop, le journal de 13h non-stop. Et puis ça veut dire qu'aujourd'hui, nous allons évidemment franchir une nouvelle étape dans votre carrière.
Alors, il faut savoir pourquoi il y a eu une nouvelle étape. Je pense me souvenir qu'hier, vous m'avez laissé dans cette limousine studio du journal de 13 à 14 heures.
Oui.
Et ça s'est arrêté un peu avant la date fixée, parce que le pouvoir de l'époque, c'est-à-dire M. Giscard, pour ne pas le nommer, m'avait trouvé irrévérencieux.
Ah oui,
oui,
il avait dit. La question est de vous, vous comportez-vous comme un monarque aurait pu peut-être...
Bon, il faut dire qu'elle était vraiment très osée. Elle était même inconvenante. Et donc, il avait dit, écoutez, il vaut mieux changer le présentateur de l'émission, parce que je pense que c'était l'expression qu'il avait employée, il a mauvais esprit.
Alors du coup, avec l'arrêt de cette émission, eh bien, nous en arrivons directement aux grosses têtes.
Ah bah oui, il fallait quand même m'employer, vous comprenez. Bon, j'étais là depuis une dizaine d'années. J'avais pas démérité, ça se passait très bien. Ah, qu'est-ce qu'on pouvait me faire faire ?
Qu'est-ce qu'on va lui faire faire ? Voilà.
Bon. Je ne voulais pas redevenir journaliste, puisque je l'avais été et que ça avait mécontenté le pouvoir. Alors, il fallait retourner au divertissement.
Échange public. Philippe Bouvard, 50 ans de RTL.
Alors, Philippe, avant d'en arriver aux circonstances de la création des grosses têtes que vous allez nous raconter, puisque nous célébrons aujourd'hui un 50e anniversaire, celui de votre histoire d'amour avec RTL, je voulais vous dire que j'ai reçu une lettre cette semaine, une lettre pour vous, mais qui m'est arrivée à moi. Elle ne vous a pas été envoyée directement parce que la personne qui l'a écrite voudrait que vous essayiez de la reconnaître. Et d'ailleurs, comme dans Les Grosses Têtes, souvenez-vous, vous commenciez toujours par une citation. Qui a dit ? Moi, aujourd'hui, je vais vous demander qui a écrit ceci et j'aimerais que vous essayiez d'identifier son auteur, selon la formule consacrée. Chers amis, cette lettre dit ça. 23 mars 2017. Cher Philippe, quel bel anniversaire. Les noces d'or avec la radio. L'humour serait-il plus durable que l'amour ? En tout cas, j'attends avec impatience les noces d'or de l'estime et de l'amitié que je vous porte. Bravo, vous êtes unique. Bon, c'est une très belle lettre. Hein.
C'est gentil,
Alors, posez-moi peut-être deux, trois questions qui pourraient vous mettre sur la voie.
Je sais pas, est-ce que cette personne est connue ?
Cette personne est très connue.
Est-ce que je l'ai reçue ?
Vous l'avez reçue, j'y étais, donc je peux en témoigner, oui. Vous l'avez reçue.
Est-ce que ça s'est bien passé ?
Très bien. Oui, très bien, très bien.
Est-ce qu'elle intervient très souvent dans les médias ?
Non, justement, c'était ce qui rendait sa présence exceptionnelle.
Alors, je crois avoir trouvé.
Oui, dites-moi toujours.
C'est Brigitte Bardot.
La lettre vient de Lamadrague Saint-Tropez. C'est Brigitte Bardot. Et mes amis, j'ai l'honneur de dire bonne réponse de Philippe Bouvard.
Ah, chère Brigitte, je lui dois un de mes plus beaux souvenirs radiophoniques, puisque pendant des années, et d'une façon bébête, je l'avais prise comme tête de turc. Charmante tête de turc.
Bah oui. Hein.
Mais bon, c'était à la fois un peu de jalousie pour quelqu'un qui était devenu mondialement célèbre.
Une star mondiale.
C'était aussi une espèce de misogynie, il faut bien le dire, qui à l'époque était très à la mode et qui heureusement ne l'est plus aujourd'hui. Et puis, j'écris un jour dans mon bloc-notes du Figaro magazine, j'ai beaucoup de respect pour Madame Brigitte Bardot, parce que ça fait quand même plus de 40 ans qu'elle réussit à m'éviter. Et alors on lui montre cet article, ça la fait rire, et elle me fait dire que si je l'invite aux grosses têtes, elle viendra naturellement.
Ah bah, il ne fallait pas vous en dire plus. Hein.
Et alors ce jour-là, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce que j'étais en face d'une des femmes les plus intelligentes que j'ai jamais rencontrée. Une des femmes qui a le plus de caractère, une des femmes qui a su le plus rabaisser leur caquet aux hommes. Je me dis, elle ne va faire qu'une bouchée de moi. Ça s'est bien passé. Nous sommes tombés dans les bras l'un de l'autre. Et depuis, de temps en temps, il y a un mot, un signe d'amitié auquel je suis particulièrement sensible.
Je crois que celui que je vous ai lu en est un beau signe d'amitié. Hein. Elle est venue aux Grosses Têtes, Brigitte Bardot. Oh, avant de revenir à l'origine de cette émission mythique, écoutons Brigitte Bardot et Philippe Bouvard.
J'ai une trentaine de chats. J'ai plein de poules qui ont fait des poussins, des canards. J'ai des chèvres. J'ai des tourterelles en masse. Et j'ai des cochons.
Est-ce qu'il vaut mieux avoir un petit cochon qu'un gros dans son lit ?
Écoutez, je vais vous dire, ça ne se compare pas tellement, mais ce n'est pas désagréable ni l'un ni l'autre.
Vous aviez même un petit âne sur votre lit il y a des années, vous le dites dans
J'en ai eu
lit.
Quelques-uns, des ânes sur mon lit, mais enfin bon.
Philippe Bouvard, 50 ans de RTL, échange public. Reviens dans un instant sur RTL. Philippe Bouvard, 50 ans de RTL. Avec Vincent Perrault, retour de Échange Public.
Revenons aux sources, Philippe. J'aimerais qu'on se resitue à l'origine de la création des Grosses Têtes, qui n'a pas tout de suite été une émission à part entière, mais qui était un petit quart d'heure au départ.
Oui, enfin, c'était surtout une émission sans public. Vous savez, une émission sans public, c'est une partie de plot basque sans fronton.
Eh oui.
Je voyais bien derrière la vitre de la régie nos gentils techniciens qui avaient le sourire, mais enfin bon, il n'y avait pas de réaction. Et d'ailleurs, je n'étais pas chaud du tout pour cette émission. Et on m'avait dit, bon, vous en faites pas, si ça ne marche pas, dans un mois, on la retire de l'antenne. Et j'ai quand même présenté pendant 37 ans.
Mais vous aviez des doutes ? Vous n'étiez pas très chaud ?
Non, alors j'étais pas très chaud parce que c'était le retour au divertissement, parce que j'allais retrouver des chanteurs et des chanteuses. Et puis parce que je ne voyais pas les possibilités de l'émission. Et surtout, je n'avais pas encore constitué ce qu'en franglais d'audiovisuel, on nomme un panel. C'est-à-dire, et pour que ça fonctionne pendant 37 ans, j'ai respecté ce dosage, un comique, un aide-comique, un souffre-douleur et un culturel. Alors, le comique, bien sûr, qui entraîne tout le monde, mais qui a besoin de l'aide-comique pour rebondir. Le souffre-douleur, et ce fut longtemps le cher Philippe Castelli,
pour que il a bien morflé, lui. Hein.
Nous passions nos nerfs et nos mauvais instincts sur lui. Et le culturel, ça a été Jean Dutour, pour rappeler quand même que nous avions un niveau un peu supérieur dans certaines disciplines.
Alors, attendez. J'active ma clochette, Philippe, là vous allez un tout petit peu vite parce qu'on arrive à l'émission comme si elle était déjà lancée avec succès. Vous me disiez à l'instant que vous n'étiez pas forcément très chaud pour cette émission, ne sachant pas trop ce que ça allait donner. En revanche, le patron de la station, Jean Farand, lui, il y croyait dur comme fer. Et je peux vous dire que je me suis mis, en tout bien tout honneur, à quatre pattes dans les archives de la station pour retrouver des documents et j'ai retrouvé le 7 septembre 1977, le moment où Jean Farand annonce le nouvel horaire de ce qui va devenir les Grosses Têtes. Écoutez, Philippe, je ne sais pas si vous connaissez ce document.
C'est une émission qui aura lieu entre 4h30 de l'après-midi et 6h, qui existe déjà en ce moment, mais qui va donc changer d'horaire, et dont l'originalité, précisément, c'est de réunir autour d'une table des gens cultivés, intelligents, fins, comme on en trouvait au XVIIIe siècle. Nous les réunissons ensemble et ils cherchent une réponse à une question, mais ce n'est pas ça qui est important, c'est leur conversation. La conversation est un art français et dans ce domaine, on peut espérer quelques succès parce que nous avons déjà obtenu quelques résultats.
Oui, c'était une émission de conversation Là, je salue la mémoire de Jean Farran, qui était venu de la presse écrite pour diriger RTL et qui a été un inventeur de la radio moderne et qui a, c'est incroyable, qui a su faire une radio populaire que personnellement, il n'aurait pas écoutée.
Et Philippe, en l'entendant, des gens fins, distingués, des nobles du XVIIIe siècle, il ne se doutait pas quand même qu'avec des gens comme Jean-Yann ou comme Jacques Martin, les nobles du XVIIIe, ça pouvait un petit peu quand même déraper.
Oui, non, mais ça dérapait beaucoup.
Il a idéalisé l'émission.
D'ailleurs, ce sont les dérapages de l'émission qui ont assuré son succès. Plus, je pense, que la partie culturelle, sauf que Jean Dutour dérapait aussi.
Mais oui, oui, oui. Alors, vous voulez qu'on l'écoute tout de suite, ce document ? Eh bien, Jean Dutour, l'alibi culturel de l'émission, c'est vrai, c'est parfois un peu laissé aller. Écoutez plutôt.
Ah ben j'emporte ma gamelle quand je vais à l'académie. Il y a toujours un morceau de ragoût, un peu de blanquette. Mange ça.
Blanquette à l'ancienne.
Blanquette, naturellement, ça
oui,
va
oui.
De ça.
Alors vous faites réchauffer
non,
ça
non,
où
non. Ah ben je ne fais pas réchauffer ça, c'est une gamelle thermos. Alors j'étale un journal sur ma table, n'est-ce pas ? Et puis je mets ma gamelle dessus, et puis avec ma cuillère, je mange ma blanquette ou je mange mon ragoût.
Et enfin, vous en renversez mon beaucoup
petit, mon petit salé aux lentilles. Non, vous savez, je me tiens encore assez bien.
Jean Dutour, l'alibi culturel qui dérape un petit peu. Mais je pense que vous n'étiez pas peu fier d'avoir régulièrement la complicité de M. d'Ormesson, tout de même.
Oh là là, là. Ça, alors Jean d'Ormesson, c'était, quand il était des nôtres, c'était la grande fête.
Allô, Jean d'Ormesson ?
Bonjour.
Bonjour, cher Jean d'Ormesson.
C'est délicieux. Continuez donc. Faites comme si je n'étais pas là et continuez. Mon cher Philippe, en tout cas, c'est pas de moi qu'il faut parler, c'est de vous. Vous êtes le plus grand animateur de culture de masse français que je connaisse. Je ne vais prendre rarement un taxi qui ne me parle pas des grosses têtes. Alors, souvent, il me dit « Rappelez-moi donc votre nom, vous étiez aux grosses têtes. » Il pense que je suis un comédien. Ou...
Je voudrais vous parler sous votre contrôle à propos de Jean Dutour, que vous avez bien connu.
Oh ben, non seulement connu, mais aimé.
Jean Dutour était aux grosses têtes avant d'être à l'Académie. Et quand il a posé sa candidature, on lui a mis le marché en main. On lui a dit « Il faut choisir entre l'Académie et les grosses têtes ». Il a dit « Je choisis les grosses têtes » et il a élu une élection de maréchal.
C'était pas tant. Vous savez, il ne faut pas vous inquiéter de ça. On avait dit aussi, il y a quelques années, on avait dit à Molière, à l'Académie avait dit à Molière, il faut choisir entre le métier de comédien et l'Académie. Eh bien, il avait choisi le métier de comédien et il avait eu bien raison. Mais lui, il n'a pas été élu à l'Académie. Tandis que Dutour, je me rappelle ses interventions toujours tellement brillantes et amusantes.
Merci, mon cher Jean, je vous embrasse.
Échange public, émission exceptionnelle. Philippe Bouvard, 50 ans de RTL.
Et puis dites-moi, Philippe, tout de suite, on parlait dans l'émission d'hier de l'importance du générique musical d'une émission. Alors pour les grosses têtes, là, le générique a été très important également. Hein.
Oui, je parle sous le contrôle d'Éric Laverdin, qu'il avait été repiqué quelque part. Hein.
Oui, c'était la musique du fameux film Rocky. Ça a fait le générique de l'émission.
Mais ce qui est formidable aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens qui pensent que ça a vraiment été créé pour les grosses têtes et ignorent que c'est peut-être une des musiques d'un des films les plus connus au monde. Donc ça, c'est quand même très fort. Et d'ailleurs, Eric a imaginé, sur cette musique célébrissime, une sorte de teaser de certaines voix mythiques des grosses têtes qui vont vous rappeler de bons souvenirs, avant d'ailleurs d'en accueillir quelques-unes ici.
Dites tout au docteur. Avez-vous eu une enfance malheureuse ?
Monsieur Bouvard et moi faisons partie d'une catégorie d'individus. On veut se goinfrer.
Eh ben j'ai une histoire.
J'ai reçu la photo d'une vieille, elle me mettait bien mon chéri, je t'attends à 5h. Quand je suis arrivé, elle était déjà morte.
Mais moi, des fois, il suffit que je regarde un truc, je fais bouger.
Et qui voyons-nous sur la glace? Cette silhouette mince et avec un peu d'air sous le ventre, Bouba.
Ici, c'est une émission où il n'y a que le sexe. Je suis entre deux lascars, il n'y a que le sexe et l'autre qui gloue.
Vous le savez, en tant que maire de Paris, bien évidemment, je fais où on me dit de faire.
Vous êtes sûr que c'est en 2036? J'aurai 99 ans. Je ne pourrais pas prendre l'astéroïde dans la gueule pour mes 99 ans. Vous comprenez?
Vu ta tronche, je pensais qu'il l'avait déjà prise.
Alors, tour à tour, nous avons... Oh, écoutez, ça s'applaudit parce que entre Alice Saprich, Thierry Leluron, Jacques Martin, Jean-Yann Signe que nous avons entendu dans ce petit montage, je me demandais, Philippe, quel était pour vous le critère pour faire une grosse tête?
Ah, d'abord, il fallait avoir envie de rire et accepter qu'on rit à vos dépens. Parce qu'autrement, ça ne marchait pas. On était là pour plaisanter, pour se mettre en boîte gentiment. Et puis aussi, il fallait quand même avoir un petit appétit culturel. Parce qu'il y avait des questions difficiles, il fallait être capable d'y répondre ou bien d'occuper le terrain. Et puis, il fallait qu'on sente qu'on appartenait à la même famille.
Juste une petite question. Savez-vous qui est aujourd'hui le doyen des sociétaires des grosses têtes?
Alors, j'imagine que c'est Jacques Bellutin.
Eh bien oui. Encore une bonne réponse de Philippe Bouvard. Et Jacques est avec nous au téléphone. Bonjour mon Balu, comment ça va?
Ça va bien, je vous écoute depuis tout à l'heure, je suis très content. Je fais partie des esprits du 18e, je suis assez content.
Oui, c'est
ça. Comment ça va mon cher Jacques?
Ça va très bien Philippe, je suis ravi de vous entendre. En plus, j'ai dit à ma femme, c'est bien parce qu'il a exactement la même voix, j'en ai reconnu n'importe où.
Alors écoutez, je vous rappelle que depuis vos 80 ans, oui, alors que nous nous sommes toujours, vous voyez, pendant oui, toute la durée de notre collaboration,
oui, nous le tutoyons.
On a décidé de se tutoyer.
Oui,
alors,
j'ai mal.
Alors, sois le bienvenu, mon cher Jacques.
Merci, Philippe.
Je voudrais quand même dire que Jacques n'avait pratiquement rien pour faire une grosse tête.
Ben bon, rien.
Sinon que c'était un comédien populaire et qu'on lui prêtait une certaine vivacité d'esprit.
Oui, mais, on me la reprenait tout de suite, on me les prêtait, mais il me la reprenait tout de suite.
Côté culture, il n'y avait pas grand-chose. Hein.
Oh, il n'y avait rien du tout.
Oui.
Il n'y avait rien. Non, mais en plus, à côté du tour, qu'est-ce que vous lui avez cultivé?
Ah, bah oui, oui.
Quand lui ne trouvait pas une réponse, il se faisait engueuler par sa femme. Parce qu'elle trouvait ça absolument inadmissible qu'il n'ait pas répondu. Et il ne répondait pas à des questions où moi je répondais parce que je voulais sortir une connerie. Quoi. Par exemple, il disait, qu'est-ce que fait un requin qui nage pas? Et moi, je disais, il coule. Oui, très bonne réponse. Et là, il se faisait engueuler de ne pas avoir trouvé ça. Ils m'ont fait lire des tas de trucs parce qu'ils parlaient de bouquins que je connaissais même pas le titre. Et j'étais obligé de les lire parce qu'après, quand on en parlait, je voulais avoir l'air un peu moins bête que d'habitude quand même. Non, je m'en fous parce que derrière moi, il y avait Castelli qui lui ramassait tout. Alors on était tranquille de ce là.
Eh bien, mon cher Jacques, je te remercie et je t'embrasse.
Merci Philippe, moi aussi.
À bientôt, Jacques Balutin. Merci.
Philippe Bouvard, 50 ans de RTL, échange public. Reviens dans un instant sur RTL. Échange public. Philippe Bouvard, 50 ans de RTL.
Restons dans l'univers des grosses têtes et je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît, sur scène, monsieur Jacques Maillot. Asseyez-vous ici, Jacques.
Ah, Jacques Maillot. Alors, Jacques Maillot représentait une catégorie qui est devenue essentielle avec le temps dans les grosses têtes, celle des metteurs en boîte. Et Dieu sait qu'il en a mis. Hein. C'est-à-dire qu'avec une certaine classe, parce que c'est un homme qui ne maltraite pas sa langue maternelle, il a dit des horreurs sur tous les gens qui nous gouvernaient ou qui voulaient nous gouverner. Vous aviez quand même une liberté de ton totale. Hein.
Avec vous, j'ai toujours été comme ça. C'est-à-dire que c'était la liberté totale. Et ça ne s'oublie jamais.
Oui. on a eu des grands moments qui étaient souvent liés à une actualité assez dramatique. Hein.
Ben oui, parce que...
C'est quand ça allait mal que vous étiez le plus drôle.
Oui, c'est ça. C'est quand ça va très mal. Donc, évidemment, comme la Ve République est un peu en train de se déliter, forcément, on avait des grands moments de bonheur. Et puis, on a vu arriver Pépère, là, le dernier élu. C'était, pour nous, c'était pain béni. Quoi. On n'avait jamais vu ça. Quoi. La cravate de travers...
Une manche plus courte que l'autre.
Que l'autre, je veux dire, lui, on peut pas
dire... Attendez, quand on voyait la longueur des manches et celle des bas de pantalon, on comprenait que c'était pas un costume sur mesure qui lui avait été offert.
Ah non. Ah ben non, ça c'est sûr.
Échange public.
Il y avait quelqu'un qui n'était pas chansonnier au départ, mais un excellent comédien et auteur de sketchs. C'était Philippe Chevalier.
Ah ouais.
Et Philippe Chevalier a accepté, sous mon amicale pression, de devenir chroniqueur. Et la chronique, c'est un genre particulier. D'abord, il faut l'écrire. Et ensuite, il faut la jouer. Et alors, ça donnait... Est-ce qu'on peut réentendre Philippe Chevalier ?
Mais absolument, on peut l'écouter. Mais avant cela, je voudrais remercier trois collègues de la station, Chantal Gramin, Claude Zighetti et Antoine De Vita, sans lesquels nous n'aurions jamais pu découvrir tous ces sons exceptionnels.
Eh ben ça y est, j'ai trouvé, notre président ressemble à mon beau-frère. Oh, je sais, ça n'est pas très flatteur. Mais rassurez-vous, ma sœur est quand même très heureuse. Ce qui m'a mis sur la piste, c'est quand François Hollande est allé visiter un élevage de poulets, tout près de chez lui, en Corrèze. À cause de la calotte en nylon sur la tête. Vous savez, cette capuche qui ressemble à un bonnet de bain et qu'on doit porter pour des raisons d'hygiène. Dans un bloc opératoire, une centrale nucléaire ou une auge à cochons, tout le monde y a droit, le président comme les autres. C'est très saillant, surtout quand on a le front dégarni et un peu bombé. Ça met le regard en valeur. Et en voyant François, je me suis dit, voilà, il ressemble à Francis, mon beau-frère. Sauf que lui, Francis, il a un béret. Toujours vissé sur le crâne et un peu en arrière, mais bien d'aplomb, de jour comme de nuit. Ça évite le shampoing, il paraît.
Philippe est devenu un grand chroniqueur. Qui d'ailleurs va publier ses chroniques dans quelques jours et je le recevrai dans mon émission actuelle. Et il a donné aussi envie à Jacques Maillot de faire des chroniques. Hein. C'était un sport peu particulier.
On s'amusait beaucoup avec les coups de sang des grosses têtes. C'était formidable parce qu'on réagissait sur l'actualité à chaud. Et c'était un bonheur. Ça, c'est un vrai métier de chansonnier. Et comme vous le disiez, de chroniqueur. On n'a pas dit chroniqueur parce que ça, c'était pour d'autres camarades.
Personne n'aurait jamais osé.
On va laisser ça aux autres, hein, Philippe. On ne va pas tomber là-dedans, quand même.
Est-ce que vous avez une idée, Philippe, du nombre de panélistes qui est venu aux Grosses Têtes ?
Je crois que ça a dépassé de beaucoup la centaine.
Oh, très largement. Vous êtes bien en dessous de la vérité.
Il y a eu les fidèles, bien sûr. Mais il y en a qui sont venus une fois, puis qui ne sont jamais revenus.
Il y a ceux... Alors
ils étaient sympas, mais on a perdu leur adresse.
Ah oui, oui. Il y a ceux qui ne faisaient que passer. Oui, et puis alors, il y avait les bonnes grosses têtes un peu inattendues. Il y avait quand même ceux dont on ne pouvait pas se douter.
Alors, inattendus, c'était des gens auxquels on n'aurait pas pensé toujours. J'y pensais. Et ce qui était inattendu, c'était qu'ils acceptaient de venir. Ben, il y avait Mireille Dumas.
Et il y avait Mireille Dumas. Bravo. Que je vous demande d'applaudir et qui vient nous rejoindre. Bonjour Mireille. Elle arrive avec une rose.
Magnifique.
Notre Mireille.
Vous êtes l'une des rares femmes à vous rendre hommage, en tout cas publiquement. Je me permets de vous offrir une
rose. Merci. Oh là là.
Qui n'est pas rouge, parce que comme ça, ça ne prête pas confusion.
Oui, bien sûr.
Mireille.
Bravo, Mireille.
Alors, prenez place, Mireille Dumas.
Quand, pour la première fois, j'ai appelé Mireille, elle a été très surprise. Hein.
Plus que surprise, oui.
Oui, on a accepté de mettre un peu de miel dans notre vitriol. Et vous avez accepté, de temps en temps... de mettre un peu de vitriol dans votre miel.
Voilà, d'être de moins en moins surprise. Et c'est ainsi que je suis devenue alors sœur Mireille de la pénétration, tant que je me souvienne. Quand même, il fallait le faire.
Alors, je dois dire
vous êtes gonflé quand même, hein, Philippe.
Vous avez pleinement justifié cette appellation lorsque vous avez participé à une émission de télévision et que vous êtes arrivé costumé comme vous n'êtes pas habillé habituellement. Vous vous souvenez ?
Oh, je me rappelle très très bien. Je l'ai fait une seule fois dans ma vie et pour vous, vous vous rendez compte. Hein, ouais. C'est presque une déclaration. Je suis arrivée en nonne.
Ah, oui.
En nonne, mais avec quand même un petit fouet à la main. Hein. Une nonne qui savait,
c'était pour la télé,
qui savait se faire respecter.
D'où le côté sœur. Et si je puis me permettre, sœur Mireille de la pénétration, une expression qui restera dans les annales.
Bah. Alors là, ça c'est très osé.
Ah oui, là.
Échange public. Philippe Bouvard, 50 ans de RTL. Philippe Bouvard, 50 ans de RTL. Avec Vincent Perrault, retour de Échange public.
Puisqu'on parle des grosses têtes, un petit mot sur la période des grosses têtes à la télévision. Est-ce qu'on peut considérer que ça a été comme une espèce de prolongement naturel
oui,
de l'émission de radio ?
Enfin, à la fois un prolongement et une formule totalement différente de celle de la radio. Totalement différent parce que c'était beaucoup moins improvisé. Nous avions la responsabilité sur la première chaîne européenne du créneau du samedi, qui est non seulement pour le public, mais pour les publicitaires le plus important. Et nous ne pouvions pas faillir à la tâche qui était la nôtre. Alors, ça exigeait que pour chaque émission, on écrive une vingtaine de sketchs et de chansons, qu'on les répète. Alors, il y avait bien sûr le fil rouge d'une culture aimable
oui.
et souvent fantaisiste. Mmh. Mais chacun se montrait comme il n'avait jamais osé se montrer. Je pense que je suis un peu responsable, et je m'en félicite, de la carrière de comédien de Stéphane Bern.
C'est vrai, oui, oui. Ah, oui, oui, ça, son image a été bien écorchée certains soirs. Hein.
Et je pense que j'ai contribué à faire mieux connaître celui qui reste à la fois un merveilleux camarade et un de nos plus grands comiques, Sim. Alors, Sim avait une supériorité sur tous les autres comédiens. Et alors, c'est d'autant plus étrange qu'on l'avait longtemps catalogué parmi les comiques visuels qui n'ouvraient pas la bouche. Or, il avait une élocution incroyable et une maîtrise absolue de la langue française qu'il parfois donnait des résultats surprenants. Je voudrais qu'on entende, si vous l'avez retrouvé, quelque chose que je n'oublierai jamais, qui était le poème « Sans liaison ».
Vous avez ça en magasin, Éric
oui,
Laverdin.
Oui, avec plaisir, on écoute.
Ah, je voudrais encore vous dire « Je vous aime ». Je vous fais en tremblant ce tendre et doux aveu, car sans hésitation, en ces instants suprêmes, on veut le doux objet dont on est amoureux. Quand on est amoureux, on a en soi deux hommes. Quand on aime, on est fort et on est un enfant. Et oui, ça saute aux yeux devant Ève et sa pomme. Vous êtes plus enfant qu'un enfant de 10 ans. L'amour vient sans histoire et comme un bon apôtre. Et petit à petit, c'est affreux, il vous a. On délaisse les uns et on oublie les autres. Et on perd ses amis, parfois, quand on en a.
Échange public. Philippe Bouvard, 50 ans de RTL.
Les duos les plus improbables, moi je dois dire que avoir assisté à certaines scènes comme Jacques Martin avec Michel Legrand au piano, est-ce que vous vous souvenez de ce moment où tout d'un coup, comme ça, en improvisation totale, Jacques Martin s'est mis non pas à chanter mais à gargariser avec le piano de Michel Legrand, vous vous souvenez ?
Alors oui, c'est un duo improbable, d'une grande musicalité, avec une partition totalement improvisée, il faut bien le dire, des instruments qu'on ne trouve pas habituellement dans un orchestre symphonique.
C'est une bourrée.
On ne joue plus en concert parce que tous les mecs finissaient avec une cirrhose.
Non mais oui. Ça dit, c'est du talent pur.
Alors il fallait quand même que il y ait une certaine grâce d'état qui s'installe sur notre petit plateau pour que Michel Legrand, qui est un des plus grands compositeurs de notre époque, se laisse aller à cette facétie. Mais on ne résistait pas à Jacques Martin.
Puisque nous parlions à l'instant d'improvisation, Philippe, j'ai toujours également en tête celui qui était aussi imprévisible que génial et qui venait régulièrement nous voir aux grosses têtes, le grand Michel Galabru. Avec lui, il fallait vraiment s'attendre à tout. Hein.
Michel Galabru était un personnage inouï. Alors, ça a été un très grand comédien qui a joué très très longtemps, il avait plus de 90 ans, il faisait encore des tournées théâtrales, qui n'avait pas besoin d'un auteur dramatique pour avoir de l'esprit, et qui de temps en temps avait un coup de folie. Et naturellement, pour nous, c'était pain béni. C'était le grand Galabru, et subitement, il éclatait. Il éclatait, et il disait, sur un ton extrêmement drôle, des choses très dramatique.
Je voudrais faire une chanson que je suis peut-être en train de composer, c'est-à-dire une espèce de rap où j'énumérerai toutes les maladies, tous les malheurs pour la syphilis, la ch'toune, les machins. Et ça se ferait. Merci, mon Dieu, pour la tuberculose, pour l'aphtose, pour la trée, machin. Merci, mon Dieu, pour la syphilis, pour le sida, pour la peste, pour le cancer. Merci, mon Dieu. Voilà où j'aboutis aujourd'hui, au seuil de la mort.
Michel Galabru. Alors, Mireille Dumas, Jacques Maillot, ce qui était formidable aussi dans les grossesses, c'était d'assister à ce genre de choses, c'était de participer, mais c'était aussi de regarder les grands numéros d'éclat de nos camarades.
C'était plus de la radio, c'était carrément du théâtre, parce que nous, on les avait sous les yeux, c'était des moments absolument exceptionnels, et je crois qu'on a été privilégiés de voir ça en direct. On ne s'attendait pas du tout à des numéros comme ça.
Mais avec Galabru, qui était déjà assez âgé et qui avait les inquiétudes du vieillissement, ça allait plus loin que le comique.
Oui, bien sûr, c'était un petit peu tragique, oui.
Philippe Bouvard, 50 ans de RTL, échange public, revient dans un instant sur RTL. Échange public, émission exceptionnelle. Philippe Bouvard, 50 ans de RTL.
Évidemment, une émission où nous abordons les grosses têtes sans parler de Jean-Yann, c'est quelque chose d'impossible, tellement lui aussi était un roi de l'improvisation.
Ah oui, c'était un compagnon de jeunesse. La légende voulait que nous ayons été ensemble à la même école de journalisme. Mais bon, il n'y avait pas passé très longtemps et moi, j'avais été renvoyé très vite, donc on s'était peu rencontrés au moins là. Et puis ensuite, en plus, c'est le génie absolu sur le plan comique. Je veux dire qu'avec les mêmes ingrédients que la plupart des autres comiques, il obtenait des résultats incroyables. Simplement, il était comme les avions gros porteurs. Il fallait lui laisser le temps de s'élever. Oui. Il fallait lui laisser le temps d'avoir une trouvaille et d'aller au bout de cette trouvaille. Alors, je ne sais pas si vous l'avez retrouvé, il avait inventé, parce que c'était un inventeur, il avait inventé un nouveau sport.
Il ne faut pas confondre le water polo avec le water prolo, qui est un jeu très amusant, qui consiste à filer les coups de canne sur la gueule des mecs qui se baignent quand on a un beau bateau. Le water prolo. Alors vous êtes sur un beau bateau, sur un yacht, vous avez une canne, et puis vous avez les prolos qui nagent. Et vous passez beaucoup sur la gueule. Oh, regardez Marie-Amélie, cet ouvrier. Oh, comme c'est gay. Water polo.
Mais d'où pouvaient leur venir des idées pareilles? Parce que c'est ça aussi la question qu'on se pose. Mais comment avoir ce genre d'idées? C'est proprement aberrant,
c'est surréaliste,
hein, Mireille.
En plus, oui, c'est, hein, c'est complètement surréaliste. C'est un univers fantasque, formidable. Oui, formidable. Oui,
oui. On le voyait démarrer. Moi, je l'observais souvent dans les grosses têtes. On voyait son œil qui s'allumait.
Ah, oui.
C'était un peu comme un voyant sur un tableau de bord.
Et genre, j'ai une idée.
Et on se disait, ça y est, il a l'idée, il va démarrer. Oui. Et là, on était sûr du coup, ça allait exploser.
Ah, fallait surtout pas l'arrêter.
Ah, surtout pas, ouais.
Philippe, on va faire une toute petite parenthèse par rapport aux grosses têtes, puisque nous abordons là les grands ténors de l'humour. Une pensée pour Coluche. Et j'ai découvert, à travers une archive absolument incroyable, que les premiers mots de Coluche à la radio, c'est « avec vous ». C'était dans un RTL non-stop. Vous le saviez, vous vous en souveniez?
Pas du tout.
Eh bien, voici Coluche avec Philippe Bouvard pour la première fois à la radio. Écoutez ça, ça c'est un document, une vraie pépite.
Un premier invité, monsieur Coluche, 22 ans, recalé au certificat d'études. Asseyez-vous, monsieur Coluche. Recalé au certificat d'études, mais ayant apparemment une certaine nostalgie des études, puisque vous avez un petit cartable d'écolier à côté de vous, là.
Oui, c'est bien pratique, c'est...
Vous mettez votre goûter là-dedans?
Oui, j'ai différentes choses. Vous voulez voir?
Voulez-vous vous décrire un petit peu? Vous avez une salopette...
Une salopette à deux places.
Oui, une barboteuse salopette, des lunettes en fer, ce qui fait plus intellectuel.
Ah bon?
Oui.
Je me rends pas compte de là où je suis. On a monté une pièce qui s'appelle Thérèse et Triste à la taverne de l'Olympia.
TTX 75 de voilà.
Oui, ma fille est ouvreuse là.
Voilà, alors on a monté un spectacle parce que c'était rigolo. On voulait faire de l'art dramatique, mais on trouve que l'art, il est suffisamment dramatique tout seul. Alors on a essayé de faire des choses pas drôles et en fait on n'y est pas arrivé. Alors on...
Les gens rient quand même.
Oui, finalement.
Ça, c'est raté, quoi. Oui.
Finalement, c'est encore raté. Mais...
Alors, non seulement Philippe, je ne m'en souvenais pas, mais encore, quand il parle de l'Olympia, il faut se souvenir que c'était la taverne de l'Olympia, c'est-à-dire un dancing où les gens venaient uniquement pour flirter et où le comique qui était sur scène ne pouvait pas se faire entendre.
Et là, vous avez entendu une voix qui dit « Tiens, ma fille est ouvreuse là-bas, c'est Serge Reggiani ». Qui était votre invité, et sa fille lui a dit « Tu fais l'émission de Bouvard, papa, fais inviter ce jeune mec Coluche que personne ne connaissait et qui va devenir quelqu'un d'important. » Et donc, c'est vous qui l'avez opéré pour la première fois. C'était alors, pas un beau document, ça?
Plus tard, j'ai pu, fidèle à mon ambition de mettre côte à côte des gens qui n'étaient pas faits pour se rencontrer, je l'ai installé entre Salvador Dali et un académicien français dont je ne me souviens plus du nom. Mais je veux dire, c'était tellement imprévu que ça en devenait un peu obscène. Et il s'est très bien comporté parce qu'il était à l'aise partout. Et puis ensuite, pendant 3 semaines, j'ai tourné un film avec lui et avec De Funès, un film qui s'appelait « L'aile ou la cuisse ».
Oui.
Et là, alors, j'ai vu quel grand comédien ça pouvait être que ce Coluche.
Échange public. Philippe Bouvard, 50 ans de RTL.
On ne peut pas ne pas évoquer Léon Zitrone quand on parle des grosses têtes, parce que considérez-vous, Philippe, qu'il faisait partie des personnages inattendus des grosses têtes, monsieur Léon ?
Bah, totalement, parce que d'abord, Léon ne répondait pas à la définition que j'ai donnée tout à l'heure aux grosses têtes, de quelqu'un qui a toutes les raisons de se prendre au sérieux et qui ne s'y prend pas. Parce que lui, il se prenait pour Léon Zitrone. Bon, et il avait raison d'ailleurs. Et alors, quand parfois je m'interroge sur des carrières longues, parfois très longues ou trop longues, je pense à ce que Léon m'avait dit un jour. Et j'y pense... très fortement depuis quelques années. Il m'avait dit, quand on a un âge certain et qu'on continue à travailler, il faut se méfier du moment où on passe du courageux au pathétique.
Très profond. Mais alors, dites-moi Philippe, j'ose vous poser la question à l'occasion de ces 50 ans de carrière que nous célébrons aujourd'hui sur RTL. Vous, personnellement, n'avez-vous jamais eu peur du combat de trop.
Non, non, je sais que le plus gros est fait. mais j'ai encore plein d'idées, j'ai encore envie de travailler. Parce que vous savez, quand une vie a été tout entière consacrée au travail, si vous ôtez le travail, vous enlevez la vie.
Philippe, puisque nous parlons de Léon Zitrone, il faut l'écouter une fois. Vous souvenez-vous du jour où vous lui avez demandé de sortir tout ce qu'il avait dans ses poches ?
Oh oui, c'est un souvenir à la fois drôle et triste, parce que Léon était un gros monsieur qui avait une petite santé. Alors, quand il partait le matin de chez lui, sa femme, Laura, dite pique à glace, parce que elle avait un appendice nasal tellement bizarre que, j'ouvre une parenthèse, France Dimanche avait ouvert une souscription pour lui offrir une opération esthétique. Pique à glace lui mettait dans ses poches un tas de choses qui, lorsqu'il arrivait à RTL, s'y trouvaient encore.
Je n'ai pas de carnet sur moi. Mais j'ai des petits bouts de papier que quand j'ai besoin d'inscrire quelque chose, j'inscris sur des bouts de papier que je mets dans mes poches.
Et pourquoi il y a une tache là ? Ah, parce que vous mettez souvent des petits bouts de viande dans vos poches.
Je mets des petits bouts de viande dans ma poche, oui, des petits bouts de fromage qui font tache d'huile. Et puis je regarde chacun à sa manière personnelle de noter ses rendez-vous.
Et ça, qu'est-ce que c'est ?
Ça, c'est un médicament qu'il faut que je prenne à l'heure où nous sommes de la journée où nous sommes parvenus. Les timbres, c'est pour timbrer, si vous voyez ce que je veux dire, les lettres que je pourrais éventuellement vouloir mettre à la poste.
C'est fou. Qu'est-ce qu'il est organisé ?
Oh ben non, il y a la clé de ma voiture, mais je me demande où j'ai laissé ma voiture. Je suis venu en taxi. Alors ça m'étonne beaucoup.
C'est peut-être la clé du taxi que vous avez emportée.
Non, mais ça m'étonne beaucoup, je comprends pas.
C'est une vraie épicerie, ces poches.
Ça, c'est un petit peu de monnaie. Elle a 24 francs 50. Et ça, c'est un petit bout de papier qui semble ne devoir servir à rien, mais que je mets lorsqu'il fait grand vent dans mes oreilles. Vous vous souvenez ?
Des bouts de papier dans ses oreilles. Non mais franchement, quelle voix, hein, ce Léon Zitrone, Philippe.
Philippe Bouvard, 50 ans de RTL, échange public, revient dans un instant sur RTL. Philippe Bouvard, 50 ans de RTL, avec Vincent Perrault, retour de échange public.
Restons. Mais dites, vous avez vu l'heure, ça passe trop vite, hein. Il va bientôt falloir se quitter. Mais Philippe, il était bien normal de rendre un petit hommage également à l'émission que vous animez actuellement, juste après mon stop ou encore, qui est Allô Bouvard. Il y a des coups de fil dans cette émission. Eh bien...
Oui, c'est la formule, le concept, comme on dit aujourd'hui.
Voilà, ne changeons pas la règle. Il y a quelqu'un au téléphone pour vous.
Oui. Bonjour, Philippe Bouvard, c'est François Hollande.
Oh, c'est pas vrai. Attendez, monsieur le Président, je suis confus. Je me suis beaucoup payé votre tête, mais avec les impôts que vous m'avez fait payer, c'est la seule chose que je pouvais encore m'offrir.
C'est
non, mais attendez. Vous savez où vous êtes, à qui vous parlez ?
Oui, je parle à André Bouvard, je crois, que je connais bien, puisque j'écoute son émission régulièrement. Mais vous savez, je vais bientôt être en retraite, j'aurai beaucoup de temps à moi, mais vous qui n'êtes jamais à la retraite, vous ne serez jamais à la retraite. Mais comment faites-vous, mon cher Philippe ?
Je suis comme vous, monsieur le Président. Je suis périodiquement plébiscité par le public. Mais enfin, moi, je suis toujours volontaire, alors que vous avez déclaré forfait, hein ?
Oui, moi, et surtout, je suis de moins en moins plébiscité, moi, par le public.
En tout cas, c'est gentil d'avoir pris la peine de parler dans une émission où vous n'avez pas eu toujours le bon rôle, hein ?
Absolument, mais je n'ai pas non plus pris la grosse tête. De toute façon, ce n'est pas le genre de la maison.
Non, c'est pas vrai, c'est pas le président.
Mon cher Philippe, l'imitation est meilleure que l'original. Nous tenions à ce que Laurent Gérard vous embrasse.
Ah, mon cher Laurent, vous m'avez eu là. Hein. Bon, j'avoue que j'avais peine à y croire, mais la voix est tellement bien imitée.
Merci, mon cher Philippe. Bah oui, puis vous avez toujours été tellement.
Ben vous savez, vous
avec moi à chaque fois pour les grosses fêtes quand je venais vous voir.
Vous êtes souvent venu nous voir et c'était chaque fois une fête.
Ah ben pour moi aussi, sachez-le bien. Et je vous écoute régulièrement le matin Voilà, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir vous le dire de vive voix. Et là, c'est avec la mienne.
On vous embrasse.
Merci, Laurent. Merci, Laurent Gérard.
Alors, je voudrais maintenant dire à quel point je suis redevable de tout ce qui m'est arrivé d'heureux à ceux qui m'ont professionnellement entouré et sans lesquels je serais rien d'autre qu'un petit animateur parmi beaucoup d'autres. Mais la chance de les avoir rencontrés a changé ma vie. Et je voudrais dire, si vous voulez, ce sera la fin de cette émission qui m'a beaucoup plus ému qu'il n'y paraît. Je voudrais dire à ceux qui nous écoutent, à ceux qui m'ont écouté si longtemps, que je leur dois tout. Et que je leur dois, et c'est le message que j'envoie aux jeunes qui seraient tentés de prendre la relève, je leur dois une vie à laquelle rien ne me donnait droit. Je n'avais pas de physique, je n'étais pas intelligent, j'étais tout juste un peu plus rapide que les autres, je n'avais pas de relation. Et grâce à eux et à la confiance qu'ils m'ont faite, j'ai eu une existence de rêve qui s'est encore poursuivie. Un grand merci aujourd'hui.
C'est la fin de ces deux émissions.
Merci à tous, je vous embrasse.
Merci à vous tous. Bonne journée sur RTL et à très bientôt. Avant de retrouver le grand jury RTL Le Figaro LCI, un point sur l'info RTL. Il est midi et demi.